jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque jour par Perrine Suquet, avec Charles Deluermoz. C'est Alexandre Cagzan qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à un mystère vieux de plus de 50 ans. L'affaire, appelons-la comme cela, Marie Pinchot Meyer. Alors, ce nom revient régulièrement à la une de la presse américaine pour évoquer l'hypothèse d'une conspiration de la CIA pour tuer le président John Fitzgerald Kennedy. Tout le monde connaissait dans les années 60 aux États-Unis également la réputation de Don Juan du nouveau président qui collectionnait, paraît-il, compulsivement les conquêtes féminines. Et Marie Pinchot Meyer est certainement la maîtresse la plus énigmatique du président, peut-être aussi celle qui l'aimait au point d'avoir envisagé, a-t-on dit, de ne pas se représenter et de divorcer pour l'épouser. Et cette femme était une artiste peintre, ex-épouse d'un agent important de la CIA, et elle a été sauvagement assassinée un an après Dallas, le 12 octobre 1964, alors qu'elle faisait son jogging sur les bords du Potomac. Alors, s'agit-il d'un crime de hasard ou d'une exécution ciblée d'une femme qui en savait trop? Nous allons revenir tout de suite sur l'ensemble de cette énigme avec mon invité, le journaliste Jean Le Sieur, qui a mené une contre-enquête passionnante sur la mort de Marie Meyer. Ce livre sort aujourd'hui aux éditions L'Artilleur Le Toucan, un meurtre à Georgetown, contre-enquête sur la mort de Marie Meyer, avec ce sous-titre, ce bandeau, la CIA et l'amour caché de Kennedy. Bonjour Jean Le Sieur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que votre livre est absolument passionnant. Vous êtes un ancien de la presse magazine, vous avez travaillé à l'Express, au Point, et vous connaissez particulièrement bien les États-Unis. Juste un mot tout de suite, qu'est-ce qui vous a amené à mener une contre-enquête sur cette histoire ?
Oh ben, il y a plusieurs éléments. D'abord, la fascination bien légitime que les gens de ma génération éprouvent pour la vie et la mort de John Kennedy. Ensuite, une rencontre. Je passe beaucoup de temps aux États-Unis, puis il se trouve que le hasard a fait, il y a deux étés, que je me suis lancé dans une conversation avec un vieil ami avocat à Boston, qui me parle toujours de la CIA et qui se lance ce jour-là dans une histoire sur les frères Dulles, l'ancien secrétaire d'État de Eisenhower, et qui s'appelait John Foster Dulles, et surtout Alan Dulles, qui a été le patron de la CIA. Et le hasard faisant bien les choses, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai un autre ami, journaliste, ancien journaliste du New York Times, qui vient de publier un gros livre sur les frères Dulles. Et donc nous nous rencontrons tous les trois, avec ses deux amis. Et très vite, on se met à parler des rapports entre Alan Dulles, donc patron de la CIA, et John Kennedy, président qui a viré Alan Dulles de son poste de directeur de la CIA. Et je dis à l'auteur du livre sur les frères Dulles, on a une grosse frustration quand même, qui est que vous ne développez pas vraiment les rapports bizarres entre de haine, en fait, entre John Kennedy et Alan Dulles. Et on s'est très vite mis à parler de toutes les énigmes entourant la mort de Kennedy. Et très vite, on est tombé sur Marie Meyer, évidemment, personnage absolument fascinant, dont l'histoire est une sorte de rêve pour un journaliste ou un historien, parce qu'elle cumule à la fois une magnifique histoire d'amour, tous les mythes qu'il y a autour de John Kennedy, l'univers de la CIA, puisque Marie Meyer était elle-même la femme d'un des grands pontes de la CIA, et puis une énigme policière fantastique. Et la conjonction de tous ces éléments-là, c'est un rêve pour quiconque fait profession de raconter des histoires, comme vous et moi. Et donc, je me suis plongé là-dedans et j'ai rencontré quelques personnes, j'ai lu beaucoup de livres, d'où ce livre qui, en effet, a été aussi passionnant à faire que, j'espère, il sera passionnant à lire.
Alors, un mot sur le titre, un meurtre à Georgetown, parce qu'elle est morte en allant faire ce qu'on appelle aujourd'hui du jogging. Elle allait se balader régulièrement après avoir peint pendant des heures dans sa maison de Georgetown. C'est un quartier de Washington, hein ?
Oui, Georgetown est un vieux quartier de Washington où l'histoire, avec un grand H, a fait que se sont retrouvés des gens de la très bonne société américaine. Et alors, non pas des gens riches, des entrepreneurs ou des gens qui sont de Silicon Valley ou des entrepreneurs de ce type-là, non.
Donald Trump n'a pas de maison à Georgetown. Hein.
Pardon ?
Donald Trump n'a pas de maison à Georgetown.
Non, je ne suis pas sûr qu'il serait bien accueilli là-bas, d'ailleurs. Mais c'est un quartier donc, qui est très, très pittoresque, où il y a plein de vieilles maisons en petites briques rouges et puis des rues pavées, etc. Où vivent, au fond, ce qu'on appelait à l'époque, qu'on peut toujours appeler les maîtres du monde, c'est-à-dire les grands journalistes américains, les grands hommes politiques, les gens des services de renseignement, tous ces serviteurs de l'État américain et défenseurs de l'American Way of Life, des grandes années de l'Amérique. Tous ces gens-là habitent là, sur une zone qui, géographiquement, est relativement petite. Donc ces gens-là, ils dînent ensemble, ils couchent ensemble, ils parlent ensemble, ils refont le monde ensemble. Mm-hmm. Et c'est là que se passe l'histoire.
Et c'est là que, géographiquement, d'ailleurs, John Fitzgerald Kennedy et Marie Meyer ont pu se rencontrer.
Oui, puisqu'ils habitaient à quelques... c'est une longue histoire, ils ont habité à des endroits différents, mais John Kennedy et Marie Pinchot Meyer habitaient à quoi les deux maisons sont à 300 mètres l'une de l'autre, à peu près. Et en plus, la sœur de Marie Meyer, donc, habitait, elle, à côté de John Kennedy, quand John Kennedy était sénateur, puisqu'elle était mariée, elle, avec Ben Bradley, le grand Manitou du Washington Post. Mm-hmm. Donc, vous voyez à quel point tous ces gens importants vivent ensemble et parfois meurent ensemble.
Alors, il y a à la fin de votre livre, d'ailleurs, le casting des principaux intervenants, des noms qu'on va retrouver dans votre récit, parce que ce sont des gens dont certains vous ont apporté des informations capitales. Donc c'est un peu comme dans un roman d'Agatha Christie, quand on décrit les personnages importants qui vont jouer dans l'histoire. Si vous deviez en citer trois ou quatre, vous avez déjà parlé donc de Marie Meyer, bien sûr, mais pas de James Angleton, qui lui était un agent secret.
Alors James Angleton est un des personnages les plus fascinants de l'histoire des hommes de l'ombre aux États-Unis d'Amérique. C'était le patron du contre-espionnage à la CIA sous Allen Dulles. C'est un ancien de l'OSS, donc pendant la guerre, il était en Europe, et il a fait des choses, extraordinaires dans le domaine de l'espionnage. Un personnage extrêmement paradoxal, qui n'avait jamais digéré d'avoir été le meilleur ami de Kim Philby à Washington dans les années 50, quand Kim Philby était
agent soviétique,
pour MI6, et qui en fait était un agent double. Et Philby était le meilleur ami de James Angleton au début des années 50, et ce grand maître du contre-espionnage qui s'est fait abuser, évidemment, par Philby pendant des années. Et James Angleton est le meilleur ami de Cord Meyer, qui lui aussi est un grand ponte de la CIA, qui est le mari de Marie Meyer.
Ouais.
Et James Angleton est même le parrain d'un des enfants de Cord et de Marie Meyer. Et alors, il a mal fini, enfin, il a fait beaucoup de choses pas bien dans sa vie, d'ailleurs, et on le soupçonne fortement d'avoir été et dans la conspiration qui a tué Kennedy et dans la conspiration qui a tué Marie Meyer, qui en aurait su un petit peu trop sur, justement, les vraies raisons de la mort de Kennedy.
La femme qui en savait trop.
Voilà. Donc James Angleton est un personnage clé. Il a fini par être viré de la CIA, d'ailleurs, en 1974, parce qu'il était tellement obsédé par la pénétration supposée des soviétiques au sein de la CIA, qu'on a même fini parfois par le supposer dans ce monde bizarre et labyrinthique que sont les services de renseignement. On a même fini par le soupçonner lui-même d'être un agent soviétique, tellement il avait déstabilisé la CIA en voyant des communistes partout.
Alors, on va faire une première pause dans l'émission, et tout de suite après, on va revenir au fait du 12 octobre 1964. Vous allez nous raconter, vous allez reconstituer évidemment cette dernière journée de la vie de Marie Meyer. On se retrouve dans un petit instant. Si vous avez des questions, des réactions, des témoignages, vous pouvez nous joindre évidemment comme tous les jours au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par courriel sur rtl.fr.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, la contre-enquête de mon invité, le journaliste Jean Le Sieur, sur l'assassinat le 12 octobre 1964, presque un an jour pour jour, à quelques jours près, après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, d'une femme, Marie Meyer, on pourrait dire Marie, je disais Pinchot Meyer, mais on pourrait dire Pinchot Meyer, hein, je crois.
Oui, puisque son ancêtre, Pinchot, qui est arrivé aux États-Unis à la fin du 18e siècle, non, au début du 19e d'ailleurs, oui, était français.
Était français, en fait, oui. Ouais. Alors, donc, ce jour-là, Marie Meyer est retournée chez elle à Georgetown, où elle a un atelier de peinture, hein, puisque c'est, elle a décidé de se consacrer vraiment à la peinture. Elle a peint toute la matinée, je crois. Mmh. Et puis, là, elle quitte sa petite maison de Georgetown pour aller, comme elle le faisait assez régulièrement, faire un tour au bord du Potomac pour marcher, courir un peu.
Voilà. Alors, son studio d'artiste est en fait un garage transformé en atelier, dans l'arrière-cour de la maison de sa sœur, donc Tony, à quelques mètres d'ailleurs de la maison où Marie elle-même habite. Et en effet, tous les jours, vers midi, elle profitait de la proximité du Potomac et des bords du Potomac pour aller se promener, faire, aujourd'hui on dirait son jogging. Son jogging, en fait, voilà, elle ne courait pas, elle marchait simplement. Et puis alors surtout ce jour-là, en plus il fait beau. Ouais.
Beau et
donc
chaud,
elle sort, elle sort, et vous savez comment peuvent être les journées d'automne à Washington, c'est très agréable. Et elle sort et faire sa promenade tranquillement. Elle est sur le chemin de halage le long du canal qui longe le Potomac. Et puis elle fait toujours le même parcours. Et ça, c'est important parce que les gens qui éventuellement ont repéré ses habitudes savent que tous les jours, elle descend la 34e rue et elle tourne à droite après le petit pont qui passe par-dessus le canal. Et puis là, elle va jusqu'à un club d'aviron, une belle maison avec des avirons. Et elle fait là demi-tour. Et alors, avant même qu'elle ait pu atteindre son but, là, quelqu'un l'agresse par derrière. Et elle se défend, elle crie au secours, mais avant que quiconque ait pu voir ce qui se passait, parce que c'est quand même un endroit relativement isolé, même s'il y a des promenades, mais la route est quand même à 100 mètres de là. Donc personne n'a le temps de venir à son aide.
Il y a des témoins auditifs, en fait. Hein.
Oui,
il y a deux coups de feu.
Il y a un mécanicien qui est en train de réparer une voiture sur la route qui, au-dessus du canal, longe également le Potomac et qui se précipite parce qu'il a entendu « help, help ».
Et deux coups de feu.
Et avant qu'il ait pu arriver au petit mur qui surplombe le canal, il entend un coup de feu et un deuxième coup de feu et il voit là, une cinquantaine de mètres en contrebas,
le corps de cette
femme et un homme noir qui est là et qui s'en va, qui n'a pas l'air particulièrement...
Une sorte de casquette à carreaux. Enfin, il va le décrire, hein, à peu près.
Il le décrit assez précisément, sauf qu'il se trompe sur... Parce qu'il décrit un homme beaucoup plus grand que ne sera l'inculpé. Mais il décrit aussi un homme très calme qui s'en va tranquillement en marchant. Ouais. Il ne s'en va même pas en courant. Ouais. Qu'on est au milieu de la journée, quand même.
Alors, lui, il fonce dans sa voiture, à une station-service qui est un peu plus loin pour téléphoner au secours. Il va d'ailleurs être le premier soupçonné de l'affaire. Et puis alors, il va décrire cet homme, il va y avoir des recherches, et les policiers vont tomber sur un type bizarre, noir. Alors, il faut dire que le premier témoin est afro-américain également, donc on ne peut pas penser qu'il est dénoncé par racisme un noir. Bon. Et il y a un garçon plus jeune que celui qu'il a décrit, qui est tout mouillé, et on lui demande ce qu'il faisait là. Il dit, moi j'étais... Il a l'air ivre, hein, quand même.
Un type un peu bizarre. Bon.
Il dit, je pêchais à la ligne, puis ma canne est tombée, je me suis endormi, je suis tombé à l'eau. Bon, alors on va faire des recherches, on retrouvera pas, en tout cas l'arme du crime, etc. Et c'est cet homme qui va être inculpé de meurtre et qui va comparaître au mois de juillet.
65.
Oui. Mais il va être acquitté.
Il est acquitté parce que, alors d'abord, son signalement physique ne correspond absolument pas à ce qu'a dit le témoin. Ensuite, on fait des examens, même si la police scientifique n'est pas extraordinairement développée à l'époque. On fait des examens quand même, puisque on a décrit, il n'y a aucune trace des vêtements de ce garçon sur le corps de Marie Mayer. Il n'y a aucune trace de poudre sur ses doigts. Il n'y a aucune trace d'arme à feu. On n'a jamais retrouvé. L'arme, il n'avait pas eu le temps de s'en débarrasser, puisque etc. Donc, il est inculpé. Mm-hmm. Et puis, il est jugé, et évidemment, parce que les éléments factuels ne sont pas probants, et il est acquitté, donc, 7 mois plus tard, par une cour. Alors, en plus, cet acquittement, on est quand même à une époque, même si la loi sur les droits civiques a été votée, etc., on est quand même à une époque où Washington est une ville encore très discriminante. Mm-hmm. Et malgré cela, malgré le fait que c'est un noir qui est censé avoir agressé pour des objectifs sexuels, etc., mais rien n'a été volé sur Marie Mayer, elle n'a pas été agressée sexuellement, il est, dans cette ville encore raciste, il est acquitté par un jury qui est à moitié noir, à moitié blanc, ce qui est quand même assez étonnant.
Et il faut dire que son avocate aussi a fait du bon travail.
Son avocate, qui est une militante, elle, des droits civiques, très vite démonte le dossier de la police, et en particulier...
Parce qu'en fait, il lui a dit ce qu'il faisait là, vraiment, il avait rendez-vous avec...
sa maîtresse.
Sa maîtresse, et puis ils avaient bu ensemble, etc., puis il s'était endormi, effectivement, quand il s'était réveillé, elle était disparue. Ouais. Et cette femme a été retrouvée par l'avocate, et elle a confirmé, sous le sceau du secret, parce qu'elle avait très peur, évidemment, de voir sa vie exploser. Ouais. Et on n'a pas eu besoin de révéler, d'ailleurs, publiquement, je crois, cette histoire.
Voilà. Ray Crumb, car c'est le nom de l'assassin présumé, est acquitté sans aucune espèce de problème. Et ce jour-là, donc, commence une énigme absolument extraordinaire, parce que, alors, on ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas trop, d'ailleurs, la police met un petit peu de temps à identifier qui est vraiment Marie Mayer, à savoir l'ex-femme d'un des grands ponts de la CIA, mais on ne le sait pas à ce moment-là. Et on ne sait pas non plus du tout, on ne l'apprendra que des années plus tard, qu'elle était aussi la maîtresse de John Kennedy, qu'elle était la belle-sœur de Ben Bradley, l'un des plus grands journalistes de l'histoire des États-Unis d'Amérique. À ce moment-là, on ne le sait pas, et même au moment du procès, même si Ben Bradley est appelé à témoigner, il ne dit rien sur les rapports de Marie avec John Kennedy.
Et on ne sait pas non plus que quand elle a lu les conclusions de la commission Warren, qui avait enquêté sur les conditions de l'assassinat de John Kennedy et qui avait dit qu'il n'y avait qu'un seul tireur et que c'était bien Lee Harvey Oswald le tueur, elle avait été prise d'une certaine colère. Mais ça, on va en parler ensemble dans quelques instants. Pause tout de suite et on se retrouve donc dans quelques minutes.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Contre-enquête sur la mort de Marie Mayer, un meurtre à Georgetown, c'est le titre du livre de mon invité Jean Le Sieur, livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Toucan l'Artilleur. C'est un livre dont je vous recommande très vivement la lecture, parce que là, on n'est pas dans un roman, on est dans une contre-enquête de journaliste qui connaît son affaire, qui connaît très bien les États-Unis aussi, et qui a eu évidemment la curiosité de se pencher, même plus de 50 ans après les faits, sur une histoire qui, quand même, si j'ai bien compris, Jean Le Sieur, hante quand même les États-Unis depuis, parce que pas à l'époque où ça se passe. Hein. Il y a pas une ligne dans un journal en 64,
il y a quelques lignes dans les journaux parce que Marie Mayer est une personne relativement connue de quelques gens à Georgetown, mais c'est juste un fait divers sans contextualisation, puisque à l'époque on ne sait pas du tout que cette femme a été la maîtresse de John Kennedy. On ne sait pas du tout qu'elle a collectionné les articles, les enquêtes, les conversations, car elle connaissait tout le monde. Elle connaissait Robert Kennedy. Bien et sûr. Puis son mari, Cord Meyer, était l'un des grands pontes de la CIA. Son mari, son ex-mari,
oui, oui.
Car ils avaient divorcé. Et ça a été une des premières personne a douté des conclusions de la commission Warren, et comme elle connaissait beaucoup de monde et qu'elle était assez moderne, libre de parole et elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle en parlait beaucoup de ses doutes sur les conclusions de la commission Warren.
Elle avait été fichée par le FBI dans le passé comme une activiste de gauche. Alors, ça va nous donner l'occasion de revenir sur son parcours et sur comment elle a rencontré son mari, le ponte de la CIA.
Alors, elle était en effet activiste de gauche parce que son père était une espèce de bobo avant l'heure. C'était un avocat qui était en fait un avocat militant de la gauche américaine des années d'avant-guerre et de pendant la guerre aussi, parce qu'il a même un peu flirté avec des mouvements pacifistes qui étaient... Mais enfin bref, cet avocat flamboyant et très militant... Et la mère de Marie Meyer, qui était, elle, une écrivain. On est dans la bonne société, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment besoin de travailler parce que la spéculation immobilière au début du XXe siècle à New York les a rendus très riches. Et même si la crise de 1929 les a un petit peu appauvris, c'est quand même une famille de gens à la fois intellectuels de gauche et riches. Voilà, c'est la gauche caviar new-yorkaise.
Voilà, et Marie, elle est féministe pacifiste, on peut dire ça. Quoi.
Alors, c'est une femme qui a lu beaucoup de livres, mm-hmm. qui est elle-même un peu intellectuelle, qui a été aux meilleures écoles, à la fois mm-hmm. comme jeune fille, puis comme étudiante. Ouais. Elle est à l'université de Vassar, et donc elle est un peu mm-hmm. elle-même intellectuelle de gauche, artiste, mm-hmm. et elle rencontre à la fin de la guerre, un type éblouissant, il faut le dire, une sorte de héros qui est physiquement très grand, très beau, même s'il sort d'une guerre où il a subi une blessure épouvantable, car il a perdu un œil. D'ailleurs, on l'a laissé pour mort sur un champ de bataille, alors qu'il venait de prendre une grenade sur une île du Pacifique. Mais il se rétablit, et c'est un homme, Cord Meyer, qui lui aussi a des idéaux extraordinaires et qui rêve d'un fédéralisme mondial. Et ces deux jeunes gens qui s'étaient connus d'ailleurs dans les écoles, meilleures écoles privées où vont les riches de la côte Est, qui s'étaient connus adolescents, là tombent amoureux fous l'un de l'autre et s'épousent en avril 1945.
C'est ça. Et disons à la fin des années, jusqu'à la fin des années 50, elle vit à Langley, je crois, Langley,
oui,
qui est la ville de la CIA.
Voilà, pas tout à fait encore, mais Cord Meyer n'est pas agent de la CIA. Quand elle le rencontre. Il a fait une guerre magnifique, mais il rêve à ce moment-là d'une carrière politique pour lui-même ou d'une carrière de professeur à Harvard, etc. Et il écrit beaucoup, et ses écrits sont des écrits pacifistes. Il devient d'ailleurs secrétaire général de l'Union mondiale des fédéralistes, donc il a des idéaux que Marie partage.
Comment il se retrouve dans le CIA, là?
Eh bien, il se retrouve à CIA d'abord parce qu'il perd beaucoup d'illusions. Il participe à la conférence de San Francisco en 1945 qui fonde les Nations Unies. Et puis, parallèlement à ça, il est donc secrétaire de l'Union des fédéralistes pour un fédéralisme mondial. Et puis, il se rend compte assez vite que des communistes ou crypto-communistes essaient d'infiltrer ces mouvements-là et essaient d'en faire un idiot utile un peu parce que son pacifisme sert les intérêts des communistes. Et il y a une évolution relativement lente chez lui. Alors en plus, dans son milieu social, il rencontre des gens. Et il rencontre un jour Alan Dulles, qui est le patron de la CIA toute jeune. Et voilà, ils s'entendent magnifiquement. Et il se rend compte qu'au fond, le gouvernement mondial dont il rêvait avec l'Union pour un fédéralisme mondial, la CIA, au fond, c'est pas trop mal non plus, parce que c'est une sorte de gouvernement mondial qui est enfin, qui est en gestation, mais qui est inspiré aussi par les grands idéaux de l'Amérique éternelle l'on connaît. Et puis, il y a l'Empire soviétique qui grandit, il faut donc lutter. Donc, ce pacifiste un peu nationaliste et un peu qui croit au messianisme américain, il se dit, mais la CIA, c'est très bien. Et il entame une carrière. Et alors Marie, elle, qui est restée fidèle à ses idéaux pacifistes, s'accommode plus ou moins bien des nouvelles opinions de son mari. Et donc le couple commence à branler un petit peu. Mais enfin, ils ont trois enfants.
Voilà. Et puis il y a un drame qui fait que tout s'effondre quoi pour Marie Meyer. C'est l'un de ses enfants qui va mourir accidentellement. Il va être renversé par un chauffard. Son fils traverse la rue. L'automobiliste qui arrive ne peut rien faire quoi. C'est pas un chauffard en fait. Il fuit pas non plus. Mais enfin c'est un effondrement pour elle. Et ils vont se séparer avec Kornmeyer. Et elle va décider de s'installer seule avec les deux autres enfants, deux garçons, qu'elle a dans ce quartier de Georgetown, où, en fait, comme vous l'avez dit, toute la classe politique, la haute société, et c'est là qu'elle va recroiser un certain Kennedy.
L'heure du crime sur RTL.
L'invité de l'heure du crime, Jean Le Sueur, il publie aujourd'hui Un meurtre à Georgetown. C'est la contre-enquête sur la mort de cette femme, Marie Meyer. Donc on a compris, cette femme qui a eu ce parcours très, très riche d'ailleurs, qui après sa séparation avec son mari de la CIA, on va l'appeler comme ça, retourne vivre à Georgetown avec les deux enfants qui lui restent parce qu'il y a eu ce drame où l'un de ses fils est mort dans un accident en traversant une rue, et à Georgetown, elle va recroiser John Kennedy, et là, il va y avoir cette romance. Alors, c'est vrai que Kennedy, si vous me passez l'expression, était, on le sait maintenant, et c'est pas une atteinte à sa mémoire que de le rappeler, c'était ce qu'on appelle un chaud lapin. Il a collectionné vraiment, la liste est
Strauss-Kahn n'a qu'à se rhabiller, si j'ose dire.
Absolument, parce que j'avais fait une petite liste, on y trouve Marilyn Monroe dans le désordre, Marlène Dietrich, qui a été la maîtresse d'ailleurs du fils et du père, au passage.
Qui a été la maîtresse de John et de Robert.
En passant par une stagiaire à la Maison Blanche, lui aussi, qui s'appelait Mimi Elford, Judith Campbell, une ancienne de Frank Sinatra, qui avait aussi été la maîtresse d'un patron de la mafia de Chicago, Giancana. Enfin bon, etc., etc. Mais on rappelle ça pour dire que peut-être c'est une vraie histoire d'amour qui a eu lieu entre John Kennedy et Marie Meyer.
Oui, parce qu'en fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents. Ils se croisaient dans les écoles un peu chic de la côte Est dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, la sœur de Marie, donc Tony, a épousé Ben Bradley, comme je l'ai dit. Ben Bradley, qui était le voisin de John Kennedy, sénateur. Et en fait... quand ils se recroisent à nouveau, Marie et John Kennedy, c'est chez Ben Bradley et Tony. Et alors, la spécificité de la liaison entre John Kennedy et Marie Meyer, c'est que John Kennedy, apparemment, a longtemps dragué Marie, qui a résisté parce qu'elle elle ne rêvait que de grandes histoires et belles histoires d'amour. Et elle a longtemps résisté à John Kennedy, jusqu'à un moment où, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'était une véritable histoire, au point que Marie Meyer est devenue familière de la Maison Blanche. Elle voyait souvent John Kennedy là-bas, elle était souvent reçue, alors de manière clandestine, mais il y a quand même quelques traces que l'on retrouve dans les archives de la bibliothèque Kennedy, où on voit des plans de table dans des banquets à la Maison Blanche, où Marie Meyer... est assise à côté souvent d'un compagnon qui en fait couvre la véritable raison de sa présence à la Maison Blanche. Il y a des rencontres aussi, c'est extraordinaire de voir à quel point John Kennedy pouvait appeler un de ses amis grand journaliste pour lui dire tiens, j'aurais besoin de ta maison pour quelques activités extra présidentielles, etc. Et c'est et on pénètre dans ce monde de Georgetown qui est fascinant.
Mais en même temps, Marie Meyer, du coup, elle est aux premières loges pour entendre beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que des banquets officiels, il y a des conversations plus privées. Oui. Je reviens là au mobile qu'on pourrait chercher pour son assassinat.
Ah ben, Parce que Marie Meyer, quand Kennedy est assassiné, elle est dévastée pour des raisons de romance, enfin, oui, qu'on peut sûr, imaginer. Oui. Mais elle est aussi dévastée parce que elle, qui a toujours cru aussi aux grandes valeurs éternelles de l'Amérique, ne peut pas supporter l'idée que, en fait, l'assassinat de Kennedy, c'est un coup d'État. Car c'est ce dont elle est convaincue, c'est ce dont elle parle avec tous les amis qu'elle a amassés au cours de toutes les années passées par son mari à la CIA. Donc elle connaît tous les gens à la CIA. Elle entend tout ce qui se dit. Elle connaît Robert Kennedy. Elle connaît
elle
le staff de John Kennedy.
Elle sait que Robert Kennedy va se présenter à la présidence uniquement, quasiment... Non mais je veux dire, je vais vite là, mais uniquement en tout cas pour se dire je vais rouvrir le dossier de l'enquête.
Pas encore tout à fait, parce que... Mais elle sait que Robert Kennedy est hanté par les vraies raisons de l'assassinat de son frère, puisque quelques jours après le 22 novembre 1963, donc quelques jours après Dallas, Robert Kennedy, qui est encore ministre de la Justice, convoque le patron de la CIA,
c'est ça que je pensais,
pour lui dire, dites-moi la vérité, vous avez joué un rôle là-dedans ou pas. Et on est quelques jours après Dallas, donc, et Marie, elle baigne dans ce monde-là où tout le monde se soupçonne et où il y a des éléments factuels sur Lee Harvey Oswald, sur la manière dont la commission Warren fait son travail, et donc elle baigne là-dedans, et puis elle connaît toutes les pratiques de la CIA, elle connaît tous les personnages, et très vite, elle amasse des éléments qui font qu'elle est convaincue que John Kennedy a été assassiné à la suite d'une conspiration montée par Alan Dulles, qui en voulait beaucoup à Kennedy, parce que d'abord Kennedy l'avait viré, ensuite parce qu'il pensait, avec un certain nombre de puissants américains, que Kennedy était trop accommodant finalement avec les soviétiques, parce que Kennedy amorce une politique de désarmement, des accords de désarmement avec l'Union soviétique. Kennedy, même s'il est anti-castriste, il est quand même très séduit par tous les combats de libération nationale. Il trouve que le FLN en Algérie, c'est bien. D'ailleurs, la CIA se livrera à quelques activités concernant la France qui sont intéressantes. Enfin, intéressante et sinistre. Et donc, elle sait tout ça. Marie Meyer, et qui a passé tant de temps intime avec John Kennedy, et donc dans la proximité de John Kennedy, elle est obsédée par ça. Elle est obsédée par ça, et elle a des éléments factuels qui lui permettent de penser et de dire, sans doute un peu trop fort, que Kennedy a été assassiné à la suite d'une conspiration de la CIA.
Alors, voilà. Maintenant, autre question. Pourquoi on ne l'a pas assassiné plus tôt ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un facteur qui a joué ? Il y a d'autres éléments dont on va parler dans un instant, que vous révélez également dans votre livre. Un drôle de cambriolage qui a eu lieu chez elle, et peut-être des éléments qui ont pu faire penser à ceux qui auraient décidé de la faire taire qu'elle allait parler, qu'elle allait peut-être rendre public un certain nombre d'informations. On va vous raconter tout ça dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
On va retrouver tout de suite le fil de notre histoire avec Jean Le Sieur. Donc, il est journaliste. Il publie aujourd'hui un meurtre à Georgetown, la contre-enquête sur la mort de Marie Meyer, avec évidemment la toile de fond, c'est la CIA et l'amour caché de Kennedy. C'est un livre qui paraît aux éditions L'Artilleur. Évidemment, on ne peut pas tout dire en quelques minutes à la radio, mais je renvoie tout le monde, évidemment, sur le détail de votre contre-enquête qui est très minutieux, c'est-à-dire que vous n'avez rien inventé, vous n'avez pas rempli les blancs avec des suppositions. C'est-à-dire que vous dites et vous publiez ce que vous avez réuni comme éléments qui peuvent aller dans le sens, en fait, de cette hypothèse que ça n'est pas un SDF qui passait par là qui a tué le 12 octobre 1964 cette femme.
Ben non, non, non. Et les éléments et du procès et d'une enquête que a faite quelqu'un à qui il faut rendre hommage, d'ailleurs, qui s'appelle Peter Janney,
qui
était l'ami d'enfance du fils mort accidentellement et qui connaissait bien Marie Meyer. Et cet homme, qui est un diplômé de Princeton, qui est psychothérapeute pas loin de Boston et tout, a au fond consacré une grande partie de sa vie à essayer de démêler le vrai du faux dans la mort et l'assassinat inexpliqué de Marie Meyer, et il a découvert des choses absolument hallucinantes. Et enfin, on a passé des heures ensemble. Ouais. Et alors, une des choses hallucinantes qu'il faut absolument raconter, parce que cela peut expliquer pourquoi les méchants de la CIA auraient assassiné et fait assassiner Marie Meyer. Marie, qui connaissait donc tous ces gens-là et qui connaissait plein de choses, tenait un journal intime. Or, James Angleton, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était encore une fois un grand pont de la CIA, le parrain d'un des enfants de Marie Meyer et un type un peu pervers, voire fou, se vantait d'avoir tout Washington sur écoute. Il se vantait même, enfin pas très publiquement, mais enfin il confiait à des gens que même Marie Meyer, il l'avait mise sur écoute. Or, le soir du meurtre de Marie Meyer, alors que Ben Bradley et Tony, sa femme de l'époque, la sœur de Marie, pleurent avec quelques amis, un coup de téléphone de Tokyo, d'une des toutes meilleures amies de Marie Meyer, vient interrompre cette séance. Et cette amie de Tokyo dit à Tony et à Ben Bradley, il faut absolument que vous retrouviez le journal intime de Marie. Alors quel journal intime, etc. Et bref, Ben Bradley et Tony se mettent en chasse du journal intime de Marie Meyer. Le soir même du meurtre, ils vont chez Marie Meyer, à 300 mètres de chez eux. Et qu'est-ce qu'ils trouvent en train de farfouiller dans la maison ? James Angleton lui-même. Voilà, ils connaissent James Angleton, ils savent que c'est un type bizarre, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Il se pose la question, et puis James Angleton s'en sort avec des explications plus ou moins vagues. Mais il ne trouve pas le journal intime. Le lendemain matin, Ben Bradley a une idée géniale. Il se dit, mais au fond, Marie a passé beaucoup de temps dans le studio, là, au fond de notre jardin, dans son studio d'artiste. Donc peut-être le journal est-il là. Il se lève et il va dans le studio, et qui trouve-t-il là en train de farfouiller la serrure ? James Angleton encore, alors là qui est un petit peu plus embarrassé, etc. Mais finalement, alors il y a un grand mystère dans cette affaire, c'est qu'est-il arrivé à ce journal ? Ben Bradley dit qu'ils ont trouvé un truc, alors c'est là qu'il voit des confidences sur John Kennedy, que James Angleton a détruit ce truc qui était en fait un simple carnet. Et la vérité probable est que James Angleton a fait exprès de se faire prendre par Ben Bradley, de se faire surprendre par Ben Bradley, parce que le vrai journal, celui qui contenait toutes les informations que Marie détenait sur la conspiration contre Kennedy, James Angleton l'avait déjà trouvé et mis en lieu sûr, car il ne l'a jamais détruit, ce fameux journal. Et donc, voilà un élément qui suffit à décider de faire tuer Marie Meyer parce qu'il y avait ce journal. Un autre élément est que Marie, encore une fois, parlait beaucoup, et elle a en particulier téléphoné à son ex-mari, Cord Meyer, qui est toujours un des grands ponts de la CIA, avec lequel elle a toujours des rapports parce qu'ils s'occupent des enfants ensemble. Et elle a, après la publication du rapport Warren, elle a téléphoné à Cord Meyer pour l'engueuler, pour lui dire... Oui, pas pour lui demander ce qu'il pense, non, pour lui dire, mais ce rapport de la commission Warren, c'est truffé de mensonges, et ce rapport de la commission Warren... La commission Warren, un des principaux membres de la commission Warren, était Alan Dulles, le patron de la CIA, qui s'en remettait à James Angleton, etc. Et donc, elle téléphone à Cord Meyer pour l'engueuler, pour dire... Et donc, Marie Meyer, son journal et ses bavardages jugés intempestifs ont fait décider aux architectes du complot contre Kennedy qu'il fallait s'en débarrasser. À l'époque, la CIA se débarrassait facilement des gens qui la gênaient.
Voilà, donc c'est pour le reste, je vous renvoie évidemment au livre, mais on a peut-être là la clé d'un mystère, mais qui ne sera jamais officiellement élucidé, parce que il faudrait qu'on retrouve ce journal.
Oui, mais alors James Angleton.
C'est possible pour
mais
vous?
James Angleton, ouais, s'est vanté par la suite, avant de mourir, de l'avoir. Il l'a montré à certaines personnes qui, alors malheureusement, ces ouais, gens-là voilà, sont morts aujourd'hui. Et donc, ouais, et puis la CIA a fait disparaître tout un tas de documents qui pourraient prouver, sans aucune
évidemment,
espèce
ouais,
de doute, que en effet, ils étaient au centre de ces conspirations. Mais voilà, le temps a passé. Et les gens sont morts, les témoins sont morts, les acteurs sont morts, même si certains, avant de mourir, ont parlé, fait des confidences que, malheureusement, l'Amérique ne veut pas assumer parce que, imaginez qu'il y a eu un coup d'État, c'est pas possible.
Et voilà, c'est en quelque sorte l'histoire d'un crime parfait que vous racontez.
Absolument.
Je vous remercie beaucoup, Jean Le Sieur. Un meurtre à Georgetown, un livre qui paraît donc aujourd'hui aux éditions de l'Artilleur. Je voudrais juste dire un mot, parce qu'il y a quelques mois, nous avions évoqué l'affaire de Marie Meyer avec une autre journaliste, d'ailleurs, Alexandra Eshkenazi, qui avait publié un livre, mais qui était un roman. Elle avait justement imaginé le contenu de ce carnet qui a disparu. Ça s'appelait, ce livre, Le Journal de Marie, je vous le dis au passage, parce que ça vous fait de la lecture pour pas mal de semaines.
Moi, je n'ai rien imaginé.
Vous n'avez rien imaginé. C'est vraiment le travail de la contre-enquête que vous publiez aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Jean Le Sieur.
Merci à vous.
L'émission est maintenant terminée. Et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques instants.